Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 24 octobre 2023. Nouvel accès de violence dans l'est de la RDC, au moins 20 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Les États-Unis suspendent une grande partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État. Les appels pour ouvrir la frontière entre le Bénin et le Niger se multiplient en raison de la dégradation des conditions de vie des opérateurs économiques.
Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins, nous n'arrivons pas à nourrir nos familles, nous n'arrivons pas à vivre en société comme les autres.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le chef de l'ONU condamne des violations du droit humanitaire à Gaza, provoquant la colère d'Israël. Ici aux États-Unis, le républicain Tom Emmer du Minnesota a été choisi pour briguer la présidence de la Chambre des représentants. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Une vingtaine de civils au moins ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans l'est de la République démocratique du Congo dans une attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Les détails avec Delidico.
L'attaque a eu lieu dans un quartier périphérique d'Oicha, dans la région de Beni, au nord Kivu. Selon le bourgmestre de la ville, Nicolas Kikuku, 20 corps ont été récupérés et la tension reste vive à Oicha. Le rapporteur de la société civile du territoire de Beni, Darius Siaira, dit avoir déposé 26 corps à la morgue de l'hôpital général d'Oicha. Selon lui, les victimes sont 12 mineurs et 14 adultes tués pour la plupart par arme blanche. Il évoque aussi une vive tension à Oicha, où des véhicules humanitaires ont été incendiés par des manifestants. Les rebelles musulmans ougandais sont implantés depuis les années 90 dans l'est de la RDC. Ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils et ont fait allégeance au groupe État islamique en 2019. Sur le territoire ougandais, les autorités les accusent d'avoir tué 3 personnes, dont 2 touristes étrangers, le 17 octobre dans le parc Queen Elizabeth. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. L'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe fin 2021 pour chasser les ADF sans parvenir à mettre fin à ces attaques.
Toujours dans l'est de la RDC, les combats qui se sont intensifiés depuis le début octobre entre les rebelles du M23 et des groupes armés pro-gouvernementaux se sont rapprochés aujourd'hui à une vingtaine de kilomètres de Goma. Officiellement, l'armée respecte un cessez-le-feu exigé par une médiation régionale, mais des témoins affirment que des militaires et des patriotes ouazalendo combattent ensemble contre le M23 dans la localité de Kibumba. Les États-Unis coupent une bonne partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État militaire du 30 août, tout en continuant leur soutien dans l'humanitaire, la santé et l'éducation, selon un communiqué du département d'État. Le point avec Nani Talani.
Washington indique être prêt à reprendre l'intégralité de son assistance au Gabon en cas de progrès démocratique, selon un communiqué du département d'État américain. Nous la reprendrons en même temps que des actions concrètes du gouvernement de transition vers l'établissement d'un régime démocratique, a indiqué le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Les États-Unis soutiennent le peuple gabonais dans ses aspirations démocratiques à la prospérité et à la stabilité, a-t-il ajouté. Les États-Unis, qui ont déjà stoppé une partie de leur aide étrangère fin septembre, ont formellement déclaré qu'un coup d'État a eu lieu au Gabon le 30 août, renversant le président Ali Bongo Ondimba. Cela implique, selon la loi américaine, de mettre un terme à toute aide non humanitaire.
En Mauritanie, le procureur a requis aujourd'hui 20 ans de prison ferme contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis janvier 2023 à Nouakchott pour pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune. Le juge a aussi réclamé la confiscation de ses biens. Mohamed Ould Abdelaziz, âgé de 66 ans, répond depuis le 25 janvier avec 10 autres personnalités, dont deux anciens premiers ministres, d'anciens ministres et des hommes d'affaires, des chefs d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. L'ancien président mauritanien clame son innocence et crie au procès politique pour l'écarter de la vie politique. La Corée du Nord ferme son ambassade en Ouganda, mettant ainsi un terme à un demi-siècle de présence diplomatique dans un de ses plus anciens alliés en Afrique. Cette décision a été annoncée après une rencontre lundi entre le président ougandais Yoweri Museveni et l'ambassadeur nord-coréen. L'ambassadeur Jong a informé le président que la Corée du Nord a décidé de réduire le nombre de ses ambassadeurs en Afrique, de ses ambassades en Afrique, dont l'Ouganda, afin d'accroître l'efficacité de ses représentations à l'étranger. Les relations diplomatiques entre Kampala et Pyongyang seront désormais gérées par l'ambassade de Malabo en Guinée équatoriale. Au Kenya, la justice a prolongé une décision de justice qui suspend le déploiement d'un millier de policiers kenyans en Haïti. La haute cour de Nairobi avait suspendu le 9 octobre cette décision dans l'attente de l'examen d'un recours déposé par un avocat qui soutient que ce déploiement est inconstitutionnel. La décision du gouvernement kenyan de déployer des policiers en Haïti a suscité dans le pays de nombreuses interrogations et critiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé ce mardi les violations claires du droit humanitaire à Gaza et réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat au 18e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Le point avec Jacques Aristide.
Je suis profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza. Soyons clairs, aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Les propos d'Antonio Guterres ont provoqué la colère d'Israël, l'accusant à demi-mot de comprendre l'attaque sanglante du Hamas, tandis que le représentant palestinien dénonçait l'inaction inexcusable du Conseil de sécurité qui a exposé ces dernières semaines au grand jour ses divisions sur le dossier israélo-palestinien. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a adressé une mise en garde à l'Iran. Nous ne voulons pas que cette guerre s'étende, mais si l'Iran ou ses intermédiaires attaquent le personnel américain ou que ce soit, ne vous y trompez pas, nous défendrons notre peuple, nous défendrons notre sécurité de manière rapide et décisive, a déclaré Anthony Blinken devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour le chef de l'État français, Emmanuel Macron, en visite de solidarité en Israël, la libération des otages enlevés par le Hamas est une priorité. Après la libération de deux otages américains trois jours plus tôt, le Hamas a relâché hier soir deux Israéliennes.
Ici aux États-Unis, les Républicains se sont accordés pour désigner Tom Emmer, le numéro 3 de la Chambre, comme nouveau candidat au poste de président de la Chambre des représentants, vacant depuis la destitution le 3 octobre de Kevin McCarthy. Le point avec Eric Manirakiza.
Inconnu du grand public, Tom Emmer est sorti vainqueur d'une série de consultations à huis clos. Il est un soutien de l'ex-président Donald Trump, mais M. Emmer est considéré comme manquant de loyauté par les Trumpistes, car il a voté en faveur de la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection de 2020. Parmi les 9 candidats qui étaient en lice, Tom Emmer est considéré comme le plus acceptable pour les démocrates, dont certains ont dit en privé qu'ils étaient prêts à s'abstenir pendant le vote pour l'aider à passer la ligne d'arrivée. En retour, les démocrates demanderaient que M. Emmer s'engage à respecter les niveaux de dépenses sur lesquels les républicains se sont mis d'accord cet été avec le président Joe Biden et qu'il fasse passer un texte sur l'aide à l'Ukraine et Israël. Mais le plus dur reste à faire pour cet élu, qui devra désormais rassembler suffisamment de voix dans le parti divisé lors d'un vote en séance publique. Obtenir 217 voix va clairement être difficile, a dit à CNN dimanche l'élu Mike Turner, chef de la commission du renseignement.
La Chine a limogé aujourd'hui son ministre de la Défense à la suite d'une vaste réorganisation ministérielle. Li Shangfu, en poste depuis mars, a été démis de ses fonctions au ministère de la Défense, a rapporté la télévision d'État. La chaîne n'a donné aucune raison à ce limogeage entériné par le président chinois Xi Jinping et n'a avancé aucun nom pour son successeur. Pékin a également annoncé que Qin Gang, démis de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères en juillet, s'était vu retirer lui aussi son poste de conseiller d'État. Et puis la justice pakistanaise a confirmé la liberté sous caution de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif, condamné pour corruption quelques jours après son retour d'exil en vue de participer aux élections prévues le mois prochain, en janvier prochain. La haute cour a prolongé sa liberté sous caution jusqu'au 26 octobre. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Nigeria a réussi à annuler une dette de 11 milliards de dollars en dommages et intérêts qu'il devait verser à la société PNID pour l'effondrement d'un projet de traitement de gaz dans le sud du pays. En première instance, PNID, basé dans les îles Vierges britanniques, avait obtenu des milliards de dollars pour compenser son manque à gagner. Mais devant le tribunal d'arbitrage international de Londres, Abuja a plaidé que PNID avait obtenu son contrat de manière frauduleuse en versant des pots de vin à des fonctionnaires véreux en 2020. En Algérie, la compagnie pétrolière et gazière nationale Sonatrach prévoit un projet d'un milliard de dollars pour le stockage naturel du carbone par la plantation de 420 millions d'arbres sur 10 ans, rapporte la chaîne de télévision algérienne Enar TV, citant le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Monsieur Arkab a ajouté que l'Algérie, un important exportateur de gaz, travaille pour que les énergies renouvelables représentent 30% de son bouquet énergétique d'ici 2035. Pour terminer, les cours du pétrole ont reculé lundi. Les investisseurs continuent à se concentrer sur la situation au Moyen-Orient où les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de contenir le conflit entre Israël et le Hamas.
L'aspect de nos sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le foot européen a un point de bascule face au calendrier surchargé.
Qualification pour l'Euro, championnat et maintenant Ligue des champions. L'enchaînement des matchs devient problématique pour la santé des footballeurs. Ces derniers s'emparent publiquement du sujet pour peser dans la balance. Preuve selon un expert qu'un point de bascule a été franchi. Il va falloir taper du poing sur la table. Le français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a récemment appelé comme le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk et nombre de leurs confrères à s'unir contre des calendriers toujours en train de s'alourdir et qui mettent les organismes à rude preuve.
NBA Victor Wembanyama à l'aube d'une grande aventure.
L'immense et talentueux Victor Wembanyama, escorté d'attentes démesurées, dispute ce mercredi avec les San Antonio Spurs son premier match en NBA où le Français de 19 ans pu rêver d'un destin exceptionnel. À grand renfort de dunk, de contre à des hauteurs impensables, de dribble, de feinte unique pour sa taille et de shoot dans toutes les positions, les quatre matchs de préparation du phénomène en octobre n'ont fait qu'amplifier la hype qui inonde les réseaux sociaux. Il a une forte personnalité, le sens de l'humour, il est intelligent, il sait comment appréhender toute cette attention, a dit son entraîneur.
Giannis prolonge au Bucks.
La star des Milwaukee Bucks, le grec Giannis Antetokounmpo, a prolongé son contrat avec sa franchise de 3 ans et 186 millions de dollars, annoncent plusieurs médias américains lundi. Deux fois meilleur joueur MVP de la saison régulière 2019-2020, champion NBA en 2021, Giannis a été rejoint cet été par une autre star, le meneur Damian Lillard, en provenance de Portland, pour former un duo qui place les Bucks parmi les principaux favoris au titre. La saison NBA débute ce mardi. Les Bucks reçoivent Philadelphie.
Jeux paralympiques, la Seine-Saint-Denis au cœur des parcours de cyclisme et du marathon.
Les parcours des épreuves de paracyclisme sur route et de paramarathon des Jeux paralympiques de Paris, 28 août, 8 septembre, ont été dévoilés ce mardi par les organisateurs, mettant en avant plusieurs villes de Seine-Saint-Denis au nord de la capitale de Paris. Les épreuves des deux disciplines qui se dérouleront entre le 4 et le 8 septembre 2024 seront entièrement gratuites pour le public.
Page de sport VO Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger fait beaucoup de mécontents. Les transporteurs et opérateurs économiques vivent une situation difficile et appellent le gouvernement béninois à rouvrir la frontière pour sauver des millions de familles. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger il y a 2 mois en soutien aux décisions prises par la CEDEAO pour dénoncer le coup d'État et exiger le retour à l'ordre constitutionnel. La situation n'a pas changé et les répercussions sont énormes sur les transporteurs nigériens et béninois. Ali Alassane Baboni est le président du collectif des transporteurs de marchandises du Bénin.
Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins. Nous n'arrivons pas à nourrir nos familles. Nous n'arrivons pas à vivre en société comme les autres. Et ce qui nous fait peur, l'après l'ouverture des frontières, qu'allons-nous devenir? Quel sera le sort réservé à nos camions, à nos conducteurs? Et quel sera le sort réservé à nous-mêmes face aux importateurs qui ont cette marchandise? Beaucoup de marchandises sont en train de pourrir, voler, dénaturer, faute de ce que nos bâches n'arrivent plus à tenir, la pluie, le soleil, le vent. Nous nous demandons même si nos camions vont revenir à la maison.
Âgé de 35 ans, Naïmi voulait rentrer au Niger pour fêter son anniversaire avec les siens. Mais il est bloqué et se promène souvent le long du fleuve Niger, espérant pouvoir retourner chez lui un de ces jours. Il est dans un convoi de camions transportant du riz et du sucre. Il n'est plus sûr de la qualité des produits en raison des intempéries. Djibril Adam est le représentant des transporteurs nigériens vivant au Bénin.
Actuellement, nous avons plus de 10 000 et quelques camions qui sont en manébile. Ces camions qui sont là-bas, tout ce qui est dans les camions, comme le riz et le sucre là, en tout cas, tout est gâté. Même le chauffeur, ils ont emballé donner les camions. Vraiment, ce qui se passe là, ça dépasse tout le monde.
Ils sont nombreux à se dire ruinés par cette situation. Ils disent avoir l'impression que les autorités des deux pays n'ont que fait de ce drame social qui se joue sous leurs yeux. Ibrahim Boubacar est un transporteur nigérien.
Tu restes à la maison, les enfants, ils vont te poser la question. Papa, qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne vas pas aller au travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je ne sais jamais. Un jour, ça va venir comme ça. Je suis comme je suis.
Pendant que les autorités béninoises estiment que la situation actuelle n'entache en rien les relations entre les deux pays, les transporteurs ne sont pas de cet avis. Au regard des préjudices graves subis par ces derniers, ils considèrent que même si les frontières sont ouvertes, rien ne sera comme avant. Alassane Baboni.
Il va falloir que ceux-là qui ont pris cette décision abjecte, eh bien qu'ils pensent à comment faire tout possible pour que vraiment ils arrivent à prendre en charge tout ce que nous sommes en train de subir. Il faut que la CEDEAO pense à prendre en charge les dommages que cette situation engendre. Sinon, je dirais, entre le Bénin et le Niger, eh bien, tel que les gens sont en train de menacer, il n'y aura plus de transactions entre ces deux pays-là.
Au Bénin, la question d'une réouverture des frontières n'est plus évoquée. Elle reste apparemment conditionnée par la prise en compte par la junte au pouvoir à Niamey des exigences de la CEDEAO, dont le retour à l'ordre constitutionnel, alors que la junte semble avoir tourné définitivement la page Bazoum. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques vient de signer un accord de free roaming avec son homologue du Bénin. Les Togolais en déplacement au Bénin, tout en conservant leur carte SIM, pourront communiquer comme s'ils étaient résidents au Bénin. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
Selon les institutions de régulation de communication électronique du Togo et du Bénin, l'accord signé sur le free roaming est la traduction dans les faits du règlement portant sur l'itinérance communautaire sur les réseaux de communication mobile à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Hervé Kovi Gadegbe, directeur exécutif de l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes ARCEP Bénin.
Il faut dire que le règlement est un règlement de 2010. Donc le règlement est déjà en vigueur. C'est parce que les deux autorités de régulation ont relevé que la mise en œuvre n'est pas sans faille que nous sommes venus faire ce protocole. Nous avons défini les moyens de l'application effective et sans faille du règlement, mais nous avons ajouté également des éléments sur la diminution, la réduction drastique des coûts de communication entre nos deux pays.
Michel Yaovi Galé, le directeur de l'ARCEP Togo, donne plus d'explications à propos de la baisse des tarifs de communication.
Concrètement, les Togolais en visite au Bénin, qui payaient avant 240 francs quand ils recevaient des appels au Bénin, aujourd'hui, grâce à cet accord, ils vont dorénavant payer 0 franc CFA, du moins pendant les 30 premiers jours. En ce qui concerne les émissions d'appels, si une minute d'appel coûte 60 francs CFA à un résident béninois, le Togolais qui est en voyage au Bénin et qui émet un appel à destination au Bénin sera aussi traité de la même manière.
En ce qui concerne les services Internet mobiles, le consommateur togolais en visite au Bénin sera désormais facturé à 2,2 francs CFA, le mégaoctet, contre 8 000 francs CFA actuellement. De quoi réjouir Emmanuel Sogadji, le président de la Ligue des consommateurs du Togo.
Toute initiative qui rentre dans la satisfaction des consommateurs ne peut que nous réjouir. Vous n'êtes pas sans savoir que hier, lorsque vous allez au Bénin, vous êtes obligé de faire des gymnases pour avoir une carte SIM du Bénin et pouvoir appeler. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir appeler avec nos puces, de recevoir des appels, de recevoir des SMS à des coûts très réduits.
Pour Michel Yaovi Galé, le directeur de l'ARCEP Togo, la concrétisation de cet accord avec le Bénin est un ouf de soulagement.
J'ai envie de dire qu'il était grand temps que nos deux institutions prennent leurs responsabilités vis-à-vis des consommateurs et en plus, cet accord est un pas géant dans le sens de l'intégration numérique communautaire en espérant vivement provoquer des émules dans la sous-région.
C'est aussi le vœu de l'Association togolaise des consommateurs qui encourage l'ARCEP Togo à réitérer de tels accords avec les autres pays voisins immédiats comme le Ghana, le Burkina Faso et les autres pays de l'espace communautaire. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le Nigeria a besoin de plus de 250 000 médecins pour respecter le ratio médecin-population de l'OMS. Un médecin devrait avoir moins de 600 patients, mais dans le cas du Nigeria, un médecin en soigne plus de 3 000. Actuellement, le Nigeria compte moins de 100 000 médecins enregistrés dans tout le pays. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Les autorités fédérales vont faire appel des travailleurs contractuels de la santé déjà à la retraite pour combler le manque de médecins qualifiés dans les hôpitaux publics. L'hôpital national de la capitale n'est pas épargné. Sa direction confirme que 3 à 4 infirmiers démissionnent ou quittent chaque semaine le plus grand centre hospitalier du pays pour aller travailler à l'extérieur. Docteur Tayo Astrop, porte-parole de l'hôpital.
Le ministre est également perturbé par cette crise et a donné des conseils et des instructions qui concernent certains de ses personnels médicaux qui ont pris leur retraite et qui étaient déjà utiles au système pour pouvoir les réintégrer dans les hôpitaux, ce qui est pour le moment une bonne voie à suivre.
Les difficultés du système sont bien documentées et affectent la qualité des soins depuis des décennies. Selon le président du syndicat des médecins de l'hôpital national d'Abuja, il faut recruter ou faire appel à quelques 700 nouveaux médecins pour compenser le manque. Docteur Olaomaru Falawale.
For instance, when you get to
par exemple, lorsque vous arrivez dans une clinique particulière où nous avons une cinquantaine de patients à consulter, vous avez 2 ou 3 médecins pour 50 patients et les médecins sont aussi des humains. Et ce n'est pas facile. Vous devez prendre votre temps parce que vous pouvez passer comme une heure avec certains patients à discuter avec eux et vous serez épuisé. Et quand vous arrivez aussi aux urgences, vous pouvez voir jusqu'à 5 ou 6 cas d'urgence à la fois avec seulement 1 ou 2 médecins.
Au moins 2000 médecins nigériens émigrent chaque année vers les pays étrangers comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, affirme l'OMS. Depuis 2019, les journaux font état d'opérations de recrutement menées par des responsables saoudiens à Lagos et à Abuja. Le secrétaire général du syndicat des médecins nigériens de la branche d'Abuja, Michael Olarewaju, pense que la décision du gouvernement fédéral de faire appel aux médecins déjà en retraite fait partie de la solution, mais ce n'est pas la solution idéale.
La solution sera d'abord et avant tout d'examiner les jeunes médecins qui cherchent à quitter en grand nombre. Vous les gardez dans le pays et comment les garder? Faites-les des propositions qu'ils ne pourront pas refuser. Vous savez que beaucoup de nos médecins quittent le pays même si c'est pour aller faire des petits boulots dans les pays développés simplement parce qu'ils ne reçoivent pas le bon salaire sur place.
72 000 médecins environ sont inscrits auprès de l'Association médicale nigériane, même si près de 3 000 médecins sont diplômés chaque année des facultés de médecine du pays. Mais quelques 35 000 seulement exercent au Nigeria, un pays de plus de 200 millions d'habitants, soit un ratio d'un médecin pour 10 000 habitants. Plusieurs milliers de médecins nigériens ont émigré vers le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis et d'autres pays en raison d'une rémunération faible et des conditions difficiles de travail. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
En République démocratique du Congo, Floribert Anzoloni, l'ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, figure parmi les 24 candidats que la Commission électorale nationale indépendante a retenu pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Eddie Isango l'a joint à Kinshasa.
Nous nous sommes aujourd'hui complètement opposés, bien évidemment, au système que nous nous appelons de gouvernance prédateur. Nous disons aujourd'hui que depuis plusieurs décennies au final, et malheureusement ça s'est perpétué fortement depuis les dernières élections, le pays est pris en otage par un système de gestion prédateur. Vous avez donc un petit groupe de personnes qui sont principalement dans la classe politique, qui se positionnent officiellement dans l'opposition ou dans la majorité politique, dépendamment des moments, mais qui ont pris en fait tout le pays en otage, qui ont pris toutes les ressources, qui détournent, qui corrompent, qui empêche finalement le pays de se développer. Nous nous disons que notre première, la base, le socle de notre vision est de tout mettre en œuvre pour mettre un terme, comme on dit, détruire complètement ce système de gestion prédateur. On ne pourra pas reconstruire le pays sans y mettre un terme. Si vous n'arrivez pas à gérer le peu de ressources que vous arrivez à mobiliser, comment arriverez-vous à mettre en place des politiques de développement et à dégager suffisamment de ressources pour pouvoir développer dans d'autres secteurs? Trois priorités que nous avons aujourd'hui, qui sont également issues du contrat social. La première, c'est la question, bien évidemment, sécuritaire, qui varie d'un coin à un autre du pays, mais le plus important, c'est la crise à l'Est qui a les conséquences les plus importantes. La deuxième, c'est la question de gouvernance ou de la qualité, finalement, des acteurs et des dirigeants. Et la troisième, c'est la question sociale et économique.
En tant qu'activiste, vous avez souvent dénoncé les manques de transparence dans les processus électoraux, mais aujourd'hui, vous y allez quand même. Qu'est-ce qu'on peut conclure?
Oui, mais le processus électoral aujourd'hui a encore effectivement plusieurs faiblesses, comme tous électoraux d'ailleurs passés. Mais la question est de dire, est-ce que ces faiblesses doivent faire que finalement personne n'y prenne part ou n'y prenne pas part? Nous avons dit non. Le principal moyen aujourd'hui de garantir que ce processus, malgré ses faiblesses, puisse aboutir à des résultats acceptables et que nous, citoyens, nous, aujourd'hui, acteurs politiques, mettions en place des mécanismes de contrôle, d'observation et de contrôle des résultats. Donc c'est à ce niveau-là que les choses vont se passer. Nous devons mobiliser chaque Congolais pour que chaque Congolais devienne un acteur et se batte et agisse, soit mobilisé pour défendre son vote après les élections du 20 décembre prochain.
Vous étiez pendant quelques temps exilé politique. Aujourd'hui, vous êtes rentré au pays. Qu'est-ce que l'on doit conclure? La démocratie se porte-t-elle bien?
Mon retour au pays est la conséquence d'un engagement fort, citoyen, pacifique, des Congolais avant tout. Je vous rappelle qu'entre 2015 et 2018, les Congolais se sont fortement mobilisés au prix de beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des personnes qui ont été blessées, il y en a d'autres qui se sont exilées, il y a eu énormément de sacrifices. Donc c'est à l'issue de ce processus que l'actuel président est arrivé au pouvoir et a été contraint par ce processus processus, finalement, d'ouvrir quelque peu l'espace. Mais malheureusement, nous constatons que depuis quelque temps, l'espace est en train de se renfermer, de se durcir. On a une répression de plus en plus visible et importante. Et donc, ça aussi, nous alertons finalement l'actuel président et l'actuel régime pour demander à ce que tout cela cesse.
Floribert Anzuluni, candidat à la présidentielle du 20 décembre en RDC et ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.